Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous voici, si nous continuons toujours notre cheminement dans le catéchisme et toujours dans le Dieu créateur du ciel et de la terre, donc du monde visible et invisible. Nous avons parlé du monde invisible avec les anges qui sont présents à la vie des hommes, qui font ce lien entre Dieu et ceux à qui il envoie ses anges, donc son humanité, sa création. Et voici donc le monde visible, Dieu créateur du monde visible. Et il est intéressant de voir que, de se rappeler, l'Écriture présente l'œuvre du Créateur symboliquement comme une suite de 6 jours de travail divin qui s'achève sous le repos du 7e jour. Quand on regarde un petit peu, donc effectivement, ces récits de création, mais aussi le récit de création, là il s'agit du premier récit de la Bible, au livre de la Genèse.
Genèse chapitre 1, oui.
Oui, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes. Pour la beauté de la création, pour bien des gens, va constituer un signe du Créateur. Ça me rappelle, il y a quelques jours, discutant avec un jeune étudiant, élève infirmier, qui parlait de sa façon d'essayer de témoigner de sa foi, de témoigner de Dieu, de ce qu'est Dieu. Et il disait que, bon, dans son métier, il n'est pas là pour en parler explicitement, mais que des fois, des perches sont tendues d'une façon assez belle, assez amusante aussi. Et il disait que, donc dans un stage, il était appelé à faire une prise de sang. Et donc, en travaillant donc, pour faire ça, avec une dame qui était là, d'un certain âge, disait-il. Cette dame, à un moment, a dit « Mais celui qui a créé ce corps, vraiment, c'est quelqu'un de bien. » Et lui, avec lui qui est un croyant, bien convaincu, a répondu « Oui, vous avez raison, hein, celui qui a créé ce corps, c'est vraiment quelqu'un de bien. » Dans ce petit dialogue, comme si beaucoup se disaient sur la beauté de la création, la qualité de l'œuvre de Dieu. Et puis, un autre aspect, le catéchisme le mentionne un peu plus loin, il y a quand même une hiérarchie dans la création ou dans les créatures. C'est intéressant, peut-être nous regardions ces deux aspects qui sont importants pour nous.
Oui, en particulier, c'est vrai que tout ce que Dieu fait est beau, puisqu'il est bon. Et le livre de la Genèse le dit, il y eut un matin, et Dieu dit que cela était bon. En hébreu, Tov, c'est aussi la beauté. Et c'est vrai qu'on peut comprendre que, quel que soit le niveau de création, il y a quelque chose de bel et bon. Il y a une grandeur de l'infini grand, il y a une grandeur de l'infiniment petit, comme dirait Pascal, et chacun nous stupéfie quand on analyse les choses, que ce soit au microscope ou au télescope, on est en admiration devant la grandeur du monde minéral, du monde tel qu'il est fait, et le monde biologique nous étonne encore plus, le monde des plantes, le monde des animaux, et l'homme qui apparaît comme la fin, en quelque sorte, le terme de ces 6 jours de la création dans l'Écriture, d'une manière symbolique, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, mais ce symbolisme des 6 jours nous aide à comprendre une gradation. Un jour n'est pas égal exactement à l'autre, et il est de plus en plus perfectionné, en quelque sorte. Et la perfection nous ramène à la fin. La créature sort de la volonté de Dieu et, d'une certaine manière, retourne à Dieu pour être divinisée. C'est une des raisons de l'incarnation, la raison peut-être la plus ultime et la plus profonde. L'homme est appelé à la divinisation. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, disait saint Irénée, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et c'est là que s'opère cette beauté maximale, cette perfection maximale dans l'ordre de la création. Dieu est au-delà, il est par excellence le bien, celui qui est la suprême bonté, et on peut dire aussi la suprême beauté, car voir Dieu, d'une certaine manière, est le terme de notre pèlerinage que nous souhaitons tous, c'est voir Dieu face à face, et cela nous est promis dans l'Écriture, 1 Jean chapitre 3, verset 2, que nous verrons Dieu face à face. Il y a une grande consolation de penser que celui qui est l'auteur de toute beauté, eh bien, apparaîtra tel qu'il est à nos yeux, et d'une certaine manière, par cette communication qui nous illuminera, nous transformera en lui-même. La beauté de l'univers, donc, est effectivement déjà un premier goût vers la beauté de Dieu, vers sa bonté infinie, et nous devons rendre grâce à chaque fois que quelque chose de beau à travers la musique, à travers les magnifiques paysages que la nature nous offre, à travers tel et tel art que l'homme a le génie de réaliser, que ce soit en architecture, que ce soit en musique, que ce soit en sculpture, que ce soit en peinture, le septième art, le cinéma même peut être une occasion de grande beauté à travers les sentiments, etc. Et tout cela nous fait déborder de joie dans celui qui est le créateur de toutes choses et nous ramène à lui. Cet ordre et cette harmonie, comme dit très bien le catéchisme de l'Église catholique, du monde créé, résulte de la diversité des êtres et des relations qui existent entre eux. Dieu a voulu que ces êtres qu'il a créés soient en interdépendance. On se souvient de cette belle exhortation apostolique du pape François quand il disait dans Laudato si, tout est lié. Tout est lié, c'est quelque chose de très grand que Dieu ait voulu, cette interconnexion des réalités qu'il a créées, puisque tout vient de lui, il y a un projet intelligent, et la rédemption cherche à parachever ce qui a été perdu au moment de la faute originelle, mais nous le verrons un petit peu plus tard, cette faute originelle qui a créé du désordre dans la création. La création dans le projet initial est belle, est faite pour la beauté, est faite pour la sublimité divine.
La beauté et la hiérarchie. Et la hiérarchie, alors, je pense à aussi un petit échange que j'ai eu à l'école, là, où une école où je suis prêtre référent. Un élève disait... Ce sont ces questions qui sont posées au moment où tu peux difficilement répondre parce qu'il y a plein, de monde, c'est avant, c'est entre deux cours, c'est des choses. Mais qui disait, on dit que les hommes, à leur mort, vont au paradis. Et pourquoi on ne le dit pas pour les animaux ? Quel est le salut pour la création entière, pour cette beauté ? Il y a cette question qui travaille... qui travaille bien des esprits croyants, et surtout à une époque où on va mettre en valeur le respect de la création, l'écologie, cette question-là.
Oui, alors c'est vrai que différentes positions peuvent être adoptées. Nous en avions déjà invoqué deux, celle dominicaine, qui voit davantage la vision d'une transcendance de la spiritualité par rapport à la matière et qui voit que seul l'homme bénéficiera de la résurrection d'entre les morts par rapport aux animaux dont l'âme meurt avec leur corps. C'est la vision la plus classique. Il y a une vision plus, je dirais, franciscaine dans laquelle on espère que les petits oiseaux qui ont chanté avec saint François d'Assise puissent passer de l'autre côté. Mais nous n'avons aucune preuve dans l'Écriture. La seule chose qui nous est donnée, c'est quand même la Jérusalem céleste à la fin de l'Apocalypse, dans laquelle on ne voit pas particulièrement révélé un positionnement de ce qui est très éphémère. Parce que si tout doit ressusciter, si quelque chose doit ressusciter, pourquoi tout ne ressusciterait pas ? Et pourquoi les brontosaures, les dinosaures, les tyrannosaures, etc., ne ressusciteraient pas avec le petit oiseau. Et donc c'est un peu délicat, si vous voulez, d'imaginer que le ciel serait fait de ces animaux extrêmement effrayants et qu'il serait doté de la même puissance de résurrection que l'homme, dont seule l'Écriture parle pour être créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et ça, nous ne pouvons pas le retirer. L'animal n'est pas créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et donc, il n'a pas la puissance d'orientation vers la vie éternelle. C'est cela qui est la position, disons, la plus classique dans l'Église. Mais rien n'est défini en cette matière-là. Nous savons cependant qu'il y a une hiérarchie des créatures. L'ange est au-dessus de nous. Et tout ce qui est infra-spirituel est, nous est inférieur. Le Concile Vatican II n'a pas peur, à la suite de l'Écriture, de parler de supériorité. Souvenons-nous de ce que déjà dit l'Épître aux Hébreux, que Jésus est supérieur aux anges. Et on n'a pas peur de le dire. Et le Concile le dit dans Gaudium et Spes au numéro 14, en vérité, l'homme ne se trompe pas lorsqu'il se reconnaît supérieur aux éléments matériels et qu'il se considère comme irréductible, soit à une simple parcelle de la nature, soit à un élément anonyme de la cité humaine. Par son intériorité, il dépasse en effet l'univers des choses. C'est à ses profondeurs qu'il revient lorsqu'il fait retour en lui-même, où l'attend ce Dieu qui scrute les cœurs et où il décide personnellement de son propre sort sous le regard de Dieu. C'est un très beau texte de Gaudium et Spes. Mais cette supériorité est annoncée sous différents angles, dizaines de fois dans le Concile Vatican II, sous des angles différents, mais toujours dans cette idée que Dieu est maître de l'ordre. Le propre du sage est d'ordonner, et qui est plus sage que Dieu lui-même? Et donc Dieu met de l'ordre. Seigneur, tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids. Sagesse, chapitre 11, verset 20.